Le 17 octobre, à Montgenèvre, Ousmane, 35 ans, dans les locaux de la PAF, a été piétiné par les policiers qui ont marché sur son ventre. Il a failli perdre connaissance tellement il souffrait.
Le 7 septembre, dans ces mêmes locaux de la PAF à Montgenèvre, Justin, 17 ans, s'est trouvé face à un policier qui lui a crié « Je ne veux plus t'entendre, mais je veux ton putain de nom !» Justin a donné son nom et le policier a dit à ses collègues « On va écrire qu'il est majeur !»
Et au nom du peuple français, avec ça.
Quelle honte !
Sous réserve des conditions fixées par la session du CIO, le Comité international olympique a l'honneur d'annoncer que le 26e Jeux olympiques d'hiver 2030 sont attribués aux Alpes françaises.
Vous êtes bien sur Radio Tempête, Radio Tempête 131.2.
De l'eau.
Y'a qu'un truc qui va manquer, c'est l'eau.
De l'eau.
Y'a plus d'eau, comment va se brosser les dents ?
De l'eau.
Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau.
De l'eau, j'aille le feu.
Gogov, l'Arzex, c'est une espèce de terrain de guérilla dans lequel les écologistes rentrent bien en tête.
De nombreux observateurs terrifiés disent avoir vu une sphère lumineuse se déplacer et parfois même rentrer chez eux.
De l'eau, jaillit le feu.
Eh putain, mais ils tirent, ils sont trop quoi.
Faut sortir de la sensation qu'on est tout seul là-dedans.
On va leur montrer qu'on veut autre chose et qu'on peut faire autre chose.
De l'eau, jaillit le feu.
Avis de tempête, saison 4, épisode 1. Les personnages. Soutenir les exilés et lutter contre les JO 2030 à la frontière franco-italienne.
Allez, voilà, ils arrivent. Au loin, là-bas, les avez-vous croisés le long des routes.
Depuis 2015, la France a rétabli ses contrôles et refoulements, ou pushback, à la frontière franco-italienne. Des maraudes solidaires se déroulent dans la montagne, puisque les traques, ou chasses policières aux humains illégaux, causent blessures et décès dans les montagnes. Les exilés, étrangères irrégularisées, empruntent des chemins de plus en plus hauts, escarpés, et tentent la traversée de nuit par le col de Montgenèvre, un col alpin culminant à 1850 mètres d'altitude, pour éviter les contrôles de la police aux frontières, la PAF. Dans ce contexte, résonne pourtant l'annonce de l'accueil des Jeux Olympiques d'hiver 2030 dans les Alpes françaises. La question qui sous-tend cet épisode, c'est qui, quels corps sont légitimes à habiter, traverser, arpenter la montagne. Les Jeux Olympiques d'hiver constituent un moment de mise en évidence combien les frontières facilitent la mobilité des corps légitimes et entravent celle des corps indésirables. Les pratiques de refoulement et de chasse à l'homme dans les montagnes réalisés par les unités de gendarmerie mobile, exposent les exilés aux dangers de la haute montagne et s'inscrivent dans un continuum de violences policières et administratives à leur encontre. Le contrôle migratoire dans le Briançonnais illustre comment la montagne peut être intégrée à des stratégies de pouvoir contribuant à la domination de certains groupes sociaux. La montagne frontière s'inscrit alors dans un espace-temps de la colonialité, ou continuum colonial, où la racialisation est fortement spatialisée. L'interpellation policière agit ainsi comme un rappel à l'ordre national, social et racial. Les forces de l'ordre, chargées de surveiller ces frontières, consolident diverses formes de domination basées sur la classe, la race, et légitiment un ordre politique et social spécifique, l'État et la nation. Alors que je participais à la randonnée No JO 2030 dans les Alpes, j'avais une seule question en tête. Comment la frontière se transforme-t-elle en temps olympique ? Le Conseil régional PACA m'a répondu, en votant une enveloppe d'€1 million par an jusqu'au JO d'hiver 2030. Cette enveloppe s'appelle Région Sud, Région Sûre, Objectif 2030. Les JO catalysent et amplifient les phénomènes de contrôle et de répression déjà existants. Ils serviront probablement de prétexte à l'expérimentation de nouvelles formes de contrôle social et territorial à la frontière franco-italienne, susceptibles de perdurer au-delà de l'événement sportif. Face à ces politiques mortifères, l'accueil alternatif, qui s'est mis en place de façon spontanée par des habitantes du territoire, constitue une tentative de réappropriation collective de l'espace montagnard. Avis de Tempête revient pour une saison 4. N'hésitez pas à nous soutenir via la cagnotte en bio. On commence l'année par un épisode assez intense. Ces derniers temps, j'ai passé plusieurs semaines au refuge solidaire à Briançon, à la frontière franco-italienne. Globalement, quand j'y étais, c'était bonne ambiance au refuge. À faire la cuisine, à se former aux maraudes en montagne, manger des crêpes au squat du Bouli, boulodrome libre, et chanter avec la fanfare invisible. Soleil, froid, neige, et encore une fois, une extrême majorité de bénévoles mint, meufs, personnes intersexes, non-binaires, trans. Dans cet épisode, vous allez entendre des prises de parole de plusieurs membres de collectifs et assos pour vous dresser un morceau du spectre militant sur place. Peut-être même vous donner envie de passer voir. Je n'ai pas prétention à être exhaustive. Réaliser un épisode, c'est donner la parole à certaines personnes, en louper d'autres. Énormément de récits auraient pu être racontés. C'est un épisode introductif sur les engagements actuels à la frontière franco-italienne, dans le Briançonnais. Il y a plein de sources en description pour aller beaucoup plus loin. Et on commence l'épisode avec la randonnée Nogio 2030 qui s'est déroulée en août dernier. Ok, a priori, c'est là. Je vois quelqu'un avec un masque de marmotte. Et je vois une banderole qui flotte avec écrit « Vous voulez des JO dans les Alpes ?» Non. Que la montagne est rebelle. No-JO.fr. Et je crois que les prises de parole vont pas tarder à commencer.
Alors, là-bas, il y a plein de tissus. Si vous voulez, c'est un atelier pour faire des drapeaux imaginaires. Et ça sera des drapeaux qui nous porteront. Vous pourrez les mettre sur les sacs. Vous pourrez les porter sur des... trouver des bouts de bois, de branches pour les porter sur la randonnée. Il y a aussi un atelier masque qui est en train d'être fait juste en dessous, des petits masques de marmotte. Voilà, on se retrouve dans un quart d'heure pour les prises de parole. Bon appétit.
Déjà, le fond, il est jaune. Pourquoi ? Parce que j'aime bien le jaune. C'est une couleur joyeuse. Après, j'ai fait un feu. Si j'essaye de sortir des trucs trop représentatifs, bon, c'est quand même un feu, c'est vachement représentatif, mais je me suis forcée à faire du bleu en me disant comme ça, même si c'est moche, on dira que c'est l'intention de l'autrice, le pacte poétique un peu. Voilà. Le feu, pourquoi ? Parce qu'on a quand même un peu envie de tout brûler. Et après, j'ai mis des petits cœurs au-dessus. En fait, j'avais un espace qui me restait. Je me disais, est-ce que j'écris un gros ACAB ? Je me suis dit, peut-être pas, parce que comme peut-être vous l'entendez au micro, il y a des hélicos, je suis sûre qu'ils vont nous tourner autour. Et du coup, j'ai fait des cœurs, parce que c'est mignon, mais en forme de mort aux vaches. Donc c'est un peu plus subtil, c'est joyeux, ça me fait un peu penser à ce bouquin incroyable « Viendra le temps du feu », où c'est vraiment love, flamme, cœur, voilà. Finalement, l'amour et la révolution, un peu tout ça, quoi. Et maintenant, j'espère trouver une petite corde pour qu'il tienne sur l'arrière de mon sac.
Donc, juste petit point cantine. Là, vous avez bouffé, il y a encore du rab, si vous voulez, c'est le bon moment pour vous servir. La bouffe que vous emportez dans vos sacs, elle est toute prête ici. Je vais me mettre là-bas pour vous dire un petit peu comment ça se passe, mais il y a beaucoup de choses qui sont en portions qu'il va falloir porter à plusieurs.
Qui a du désinfectant
en fait... Ok, on a beaucoup trop de désinfectants. Jetez le désinfectant. Bon, par contre, faut y aller là. Hein.
Et la trousse de premier secours, elle est là.
Et donc là, maintenant, je suis en train de découper, en fait... dans le carton les trois bouts qui vont me permettre de faire le masque ou la casquette, parce que ça se met aussi en casquette. Et en fait, moi, je trouve ça trop stylé, mais c'est surtout que j'ai perdu mon bob hier. Et du coup, j'étais là, il me faut quelque chose.
Oui, ça c'est un daou. Savez-vous qu'est-ce que... Un daou, c'est un... comme tu dis, un...
C'est une sorte de chamois ou de mouflon.
Oui. Pero tiene una pota más corta y otra más larga, entonces solo puede andar en la montaña a un lado y no, nunca puede dar la vuelta.
Il a une patte plus courte, comme on expliquait, et du coup il peut marcher que d'un côté de la montagne et pas de l'autre.
Eso está en peligro de extinción, porque no se puede reproducir con los daous que van en el sentido opuesto.
Et du coup il est en danger d'extinction parce qu'il ne veut pas se reproduire avec les autres qui vont dans l'autre sens. Quoi.
Com que els Jocs Olímpics van coixos.
Les Jeux Olympiques sont bancales. Ouais, c'est ça, ouais.
Que van courts de la pota sostenible, diguem-ne, de la cama de la sostenibilitat i de l'ecologisme.
Et du coup, ils ont la patte de l'écologiste qui est un peu trop courte, quoi.
I massa llarga de la part del lucre i el capitalisme.
Et au contraire, la patte la plus grande, c'est celle du capitalisme et de l'enrichissement.
Alors, pour reprendre les choses dans l'ordre, c'est un des membres du mouvement qui, l'été dernier, a eu envie de monter une randonnée dans ce périmètre. On parlait déjà des JO 2030. Et dans sa tête, tout ça s'est combiné pour se dire, tiens, on ne ferait pas une randonnée militante qui permet de visibiliser des luttes. Et puis, ça a pris forme. En amont, on avait fait une liste de différentes luttes qui existent effectivement sur un périmètre. On a identifié donc à Briançon l'accueil des migrants, lutte pour aider les migrants, des luttes aussi environnementales contre l'accaparement des montagnes, contre les retenues collinaires, contre la destruction des écosystèmes, l'accaparement des montagnes. Pendant le repérage, on est allé rencontrer ces collectifs, on a échangé avec eux pour savoir finalement si ces collectifs souhaitaient s'associer au projet et de quelle manière. Et en fait, on a eu différents types de réponses. Il y a certains collectifs qui ont dit banco, nous, quelque chose qui va dénoncer les JO 2030 dans les Alpes, on est derrière vous, on va vous aider comme on peut. Et d'autres qui ont dit, on va vous aider comme on peut, mais on préfère ne pas être associé à cette dénonciation des JO, parce que ce sont des collectifs qui ont déjà du mal à gérer la cohabitation avec les populations locales, typiquement pour l'aide aux migrants. Et dans ces régions, il y a quand même beaucoup de gens pour qui les JO des Alpes, enfin tout le tourisme sportif, c'est leur fonds de commerce. Et donc c'est compliqué d'aller cracher sur les JO. Et ça, c'était intéressant pour nous de voir, parce que nous, on partait bille en tête en se disant, on va mettre en avant toutes ces luttes, leur faire vraiment une publicité. Et c'était bien de faire ce repérage parce qu'on s'est aperçu que certains collectifs n'avaient vraiment aucun intérêt à ce qu'on fonctionne comme ça. Donc on a adapté. Néanmoins, tous les collectifs qu'on a rencontrés nous ont aidés d'une manière ou d'une autre en fournissant une camionnette, en nous faisant bénéficier de leur réseau et en nous envoyant vers d'autres personnes qui pouvaient nous prêter des lieux, des cantines, des boulangers, des maraîchers. Et du coup, le réseautage s'est mis en place, et ce qui a permis effectivement de trouver cette cantine qui fournit les repas, d'avoir des lieux de stockage, d'avoir trouvé les moyens de transport.
Merci d'être là, c'est super bien. On m'a posé la question hier, pourquoi on faisait une randonnée dans les Alpes alors que les JO sont à Paris. Les Alpes, c'est un élément important en fait d'une lutte écologique majeure d'actuelle. C'est le château d'eau de l'Europe. C'est un lieu qui est assez, essentiel à protéger. Et aussi, pour faire un lien avec les prises de parole qu'on va peut-être commencer. Mais bon, les Alpes, c'est aussi un mur. C'est un mur frontière. Et à Briançon, il se passe beaucoup de choses. Je vais laisser la parole à des gens qui ont des informations un peu plus précises que moi sur ces choses-là.
Comme vous le savez, là on est à 15 km de la frontière, moins de 15 km à vol d'oiseau, la frontière avec l'Italie. Et comme vous le savez aussi certainement, c'est un point de passage de migrants qui arrivent d'Italie, alors en passant par les Balkans ou en passant par Lampedusa pour la plupart. Donc ces gens arrivent à Montgenèvre. Montgenèvre, c'est le village frontalier côté français. Ils arrivent d'un refuge qui, lui, est à Oulx, de l'autre côté de la frontière. Il se trouve que ce col de Montgenèvre, c'est un col qui est emprunté depuis 2000-3000 ans par les commerçants, par des personnes en migration ou pas, de passage, puisqu'en fait, tout simplement, c'est un col qui se trouve à une altitude de 1800 mètres et qui est une zone de passage plutôt aisée entre la France et l'Italie. De telle sorte que les exilés qui passent par là, en fait, choisissent ce passage pour des raisons tout à fait humaines et logiques. C'est un passage qui est assez facile, même à pied, lorsqu'ils souhaitent éviter de prendre des transports en commun. De toute façon, en fait, quand ils prennent les transports en commun, ils sont emmenés à la PAF et, pour certains, refoulés, selon les conditions d'acceptation ou pas sur le territoire. Les habitants du coin se sont rendus compte qu'il y avait du passage à cette frontière. Ils se sont organisés en collectif, puis en association, pour porter assistance à ces gens ou pour les aider à progresser vers Briançon. pour que ces gens en fait puissent poursuivre leur route vers le reste de la France.
Et aussi je voulais rappeler un truc. Du coup, ici c'est une situation un peu complexe. Toute action militante a des répercussions sur les potes exilés. Et du coup, genre, comme le milieu écolo vient à donf dans les montagnes, c'est cool de rappeler qu'en fait c'est cool de voir la situation politique et militante et solidaire d'abord, ensuite, et discuter avec nous pour ensuite faire des actions, etc. Et c'est cool si on s'échange, quoi. Parce que, de ce côté, ça peut avoir de grosses répercussions sur les potes. Et aussi, évidemment, le fait qu'il y ait les JO ici, ça va compliquer de ouf le passage. Et du coup, faut qu'on s'organise ensemble.
Maintenant la parole à Sarah Bachelry, doctorante au laboratoire PACT à l'Université de Grenoble, qui soutient bientôt sa thèse qui porte sur les paradoxes qui existent dans un territoire touristique et militarisé pour le contrôle à la frontière. Avec un regard géographique et historique, elle questionne cette contradiction d'un espace montagnard sur lequel on cherche à attirer une certaine population et en exclure d'autres sur des critères de classe, de nationalité, de race. Heureusement, il existe des résistances face à cette manière d'habiter la montagne.
Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, on a militarisé la montagne, donc d'abord pour contrôler les populations montagnardes qui étaient considérées comme plus rebelles. Donc il y a eu une augmentation des brigades de gendarmerie en montagne et ensuite une augmentation de la police en montagne avec vraiment tout un dispositif de contrôle assez important. Et à la toute fin du XIXe, on a créé les chasseurs alpins, donc c'est les premiers corps d'armée en montagne qui se sont installés à l'année dans les montagnes, et c'est là qu'on a construit tous les forts de Briançon qu'on voit encore aujourd'hui. Les chasseurs alpins, là, c'est pour contrôler vraiment la frontière, parce que c'était une époque d'augmentation des tensions diplomatiques entre la France et l'Italie. Donc il y a ce double enjeu, c'est-à-dire à la fois contrôler les populations locales, mais ensuite, progressivement, ça s'oriente plutôt vers la figure de l'étranger, qui est considéré comme un espion, un ennemi potentiel, etc. Donc voilà, donc ça, c'est le front militaire, et en même temps, il y a un front touristique qui se met en place, avec le développement d'un tourisme international, des élites. Et donc, c'est en fait les montagnes qui étaient considérées, qui faisaient peur avant. Donc, au Moyen-Âge, la montagne, ça faisait peur. Eh bien, à la fin du 19e, elles deviennent très attractives. C'est vraiment l'imaginaire de la montagne belle, la montagne émancipatrice, qu'on va peindre dans les peintures romantiques, etc. Et donc, ça se diffuse jusqu'à ce qu'on crée des stations touristiques dans toutes les Alpes, à la fin du 19e et surtout au début du 20e. Et on développe les sports d'hiver, etc. Et donc, du coup, paradoxalement, au même moment où cette frontière elle est de plus en plus contrôlée, et on contrôle les voyageurs, les circulations et les populations, eh ben, on développe plein d'infrastructures pour permettre à ces touristes d'aller et venir librement à travers les Alpes. Et notamment, c'est là qu'on crée on perce le tunnel de Modane, on crée plein de routes qui passent à travers les cols. Et on urbanise. Et donc la station de Montgenèvre, à la base, c'était vraiment un tout, tout petit hameau sur lequel on a créé une compétition internationale de ski dès 1906. Et d'ailleurs, la première école de ski en France, elle a été créée à Briançon, à cette époque-là. Et c'était déjà une compétition internationale qui faisait venir des gens, plutôt des élites, mais ils essayaient d'inclure aussi la population locale parce qu'il y avait l'idée que si on apprend le ski à la population locale, ensuite, ils pourraient servir dans les chasseurs alpins et surveiller la frontière. Donc il y a vraiment tout un mouvement de l'armée et du club alpin pour diffuser le ski dans la population locale au moyen en créant des compétitions sportives qui attirent sur le côté ludique du ski. Donc c'est vraiment ça l'histoire de ce territoire. Et en même temps, donc, ce double front militaire et touristique, il s'accompagne aussi d'un front écologique avec de plus en plus d'extraction des ressources. Donc à la fin du 19e, on ouvre des mines, c'est là qu'on... On développe l'énergie hydroélectrique, donc on crée des barrages, des centrales, etc. Et en fait, le paradoxe, c'est que donc, tout ce moment en fait, d'appropriation de la montagne dans plein de circuits en fait, du capitalisme quoi, à cette époque-là, bah, ce qui produit aussi, c'est une augmentation des circulations, mais aussi des circulations de migration de travail, en fait, qui viennent travailler dans ces chantiers. Et donc, le paradoxe, c'est que On a donc beaucoup à l'époque, donc c'est des personnes qui viennent du sud de l'Italie, donc des paysans qui ont été dépossédés de leurs terres, ou des gens, enfin voilà, des classes très très paupérisées qui viennent, du coup, qui tentent voilà, le voyage vers le reste de l'Europe ou même vers l'Amérique. Ils passent par ces montagnes ici, ils passent par le Briançonnais, ils passent par le Modane, etc. Et donc c'est ces gens-là qui vont être plus contrôlés à la frontière. Les Italiens sont considérés comme suspects, et a fortiori les classes populaires, parce que les touristes italiens, eux, ils peuvent aller et venir, il n'y a pas de problème. Et donc, du coup, c'est ces populations-là qui sont considérées comme suspectes à la frontière, et en même temps, c'est eux qui servent de main-d'œuvre pour bâtir les forts militaires et pour bâtir aussi les stations touristiques, etc. Donc voilà, donc cette période, elle est vraiment cruciale, en fait, pour comprendre à la fois la généalogie de ce tourisme, la généalogie de cette frontière. Il y a tout qui se met en place en même temps. Après, donc, cette structure qui se met en place, cette manière d'habiter le territoire, en fait, qui est fondée sur l'inclusion des uns et l'exclusion des autres, sur des critères de classe et de nationalité, bah, en fait, on garde la même structure, mais juste les critères par lesquels on définit en fait, les indésirables, ils évoluent. Et il y a un moment où ça devient, donc c'est plus tant les Italiens, ça devient les Juifs. Il y a un moment, donc ça c'est dans la fin des années 30 et pendant la Seconde Guerre mondiale. Après, pendant la guerre d'indépendance algérienne, on va surveiller les Nord-Africains, leur circulation, etc., parce qu'on a peur que le FLN s'organise en partie en Europe. Et donc, on met en place une surveillance de tous les citoyens nommés dans les archives policières, les Nord-Africains, sur le territoire. Et donc, on surveille leurs déplacements. Après la fin de la guerre d'indépendance algérienne, là, à nouveau, donc on est en plein dans les Trente Glorieuses. Donc, c'est le tourisme de masse. Enfin, les stations commencent à ressembler à ce à quoi elles ressemblent aujourd'hui. Et il y a de la main-d'œuvre immigrée qui vient pour bâtir ces stations. Donc c'est beaucoup des gens d'Europe de l'Est du côté italien et des personnes d'Afrique du Nord ici en France, de Turquie aussi pas mal, qui viennent donc servir notamment dans les chantiers de maçonnerie quoi, dans le bâtiment. Donc on a besoin de cette main d'œuvre pour développer le tourisme de masse et en même temps les années 70, c'est la fin de l'immigration de travail en France, en Italie aussi. Donc de plus en plus de contrôles et la police aux frontières qui avant servait quand même avec un peu ce rôle quand même de vérifier s'il n'y avait pas des inimitiés entre les deux pays, là, elle prend vraiment un rôle de contrôle de l'immigration clandestine. Et c'est ça qu'on demande à la police aux frontières de faire. Et donc, à l'époque, ben, les nationalités qui sont définies comme des immigrés clandestins, donc celles qui n'ont pas des visas pour circuler, et celles qui sont construites comme une menace dans l'imaginaire collectif, c'est un espèce d'amalgame entre les nationalités donc d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, d'Asie du Sud et d'Europe de l'Est. Donc on recycle beaucoup le discours orientaliste dans la presse locale. C'est un discours très, très orientaliste et qui crée une espèce de menace diffuse. Donc à l'époque, le mot qu'on utilise, c'est clandestin. C'est vraiment la figure du clandestin. C'est les clandestins nous envahissent. Et voilà, mais sauf que ces clandestins, ça peut être aussi bien un Marocain qu'une femme indienne, qu'une famille serbe. Voilà, c'est tout ça, les clandestins. Et ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, plus personne ne se souvient de ces migrations-là. On a l'impression qu'il ne se passait rien à cette époque. Alors que quand on lit les archives de presse, déjà, ils disaient « c'est l'invasion à Montgenèvre, c'est l'invasion des clandestins, la police lutte au front contre ce danger, etc. » Donc c'est très intéressant de remettre ça en perspective.
Moreau, bénévole au refuge.
Je m'appelle Moreau, je suis marocain, j'ai né au Maroc, j'ai 26 ans. Ça fait 2 ans à Briançon. J'entre le deuxième année, la fin de novembre, j'entre la deuxième année. Et je dors à chalet. C'est la chalet bénévole parce que j'ai fait bénévole à Refuge Solidaire. Et j'ai fait des tâches, comme ça, je dors là-bas. Avant, c'est comme les autres migrants, je dors moi aussi. Je dors au refuge. Mais après, c'est, je reste, je pense, 2 mois. Ça fait dans un mois. Je reste 2 mois ici avec des amis et ça. Et après, je partir à Limoges. Après Limoges, Lyon, Paris. On revient à Briançon. Après, j'habite dans un coloc avant. Et je travaille un peu. Après, j'ai fait bénévolat à Refuge. Beaucoup. Après, moi, c'est parce que c'est mon domaine. C'est la cuisine, la restauration. Après, j'ai préféré la cuisine. J'ai cuisiné des trucs. Après, j'aime bien faire des cuisines. Le plat préféré pour moi, c'est de tagine ou couscous ou le fissa. Après, j'aime bien le pain semaine. Ouais. Mais j'adore faire des choses comme ça. C'est juste au refuge. Ça veut dire que comme il y a un petit peu de monde, t'as le temps pour te faire des choses. Mais comme beaucoup de monde, ça veut dire que tu fais des choses juste vite, comme patate, fais un plat pour les gens et juste manger pour... soit délicieux, soit pas délicieux, mais juste pour les gens et mange. C'est ça. J'ai rencontré plein de gens bénévoles. Et ça veut dire, c'est pas tous les bénévoles, c'est des amis ou. Mais c'est difficile un petit peu quand tu rencontres plein de gens, surtout dans le chalet. C'est pas des gens bénévoles à refuge, ils habitent à Briançon, ça va, parce que tu. S'il habite à Briançon, tu vois que chaque semaine. Hein. Mais des gens à chalet, c'est difficile pour. Il reste 3 jours, 5 jours ou 1 mois, n'importe combien. Mais c'est difficile des fois comme il est parti et toi, tu présentes pour les nouvelles. Je suis Moreau, j'ai 26 ans. Après, ils demandent la même question pour tout le temps. Et ça, ça me fatigue vraiment.
Une banderole géante, No Way, où on ne passe pas. Et des grillages pour matérialiser la frontière franco-italienne. À 1760 mètres d'altitude, opération communication ce samedi pour ces membres du mouvement d'extrême droite Génération Identitaire. Ils entendent bloquer les migrants, nombreux à tenter ici le passage entre l'Italie et la France.
On a décidé aujourd'hui, nous, jeunes mouvements politiques de jeunesse, de rassembler nos forces et de montrer au pouvoir public qu'avec un petit peu de volonté et des moyens quand même relativement sommaires, eh bien, il est possible de reprendre le contrôle de nos frontières.
Le groupe a même affrété 2 hélicoptères pour survoler la zone et repérer, disent-ils, d'éventuels migrants. Après 24 heures de campement, ils finissent par quitter les lieux hier à la mi-journée, escortés par les gendarmes. Une opération intolérable pour les militants pro-migrants qui ripostent aussitôt. 200 manifestants quittent l'Italie à pied et traversent la frontière à travers les pistes. Arrivés en France, ils forcent un barrage de gendarmerie. Ils dénoncent une provocation de l'extrême droite.
Ben, moi, je m'appelle Moon. Je suis arrivé là.
Moon, de Refuge Solidaire.
Et je suis venu tout simplement parce que j'ai vu. La première fois que j'ai entendu parler de refuge, c'était après la venue Génération Identitaire. Moi, j'étais encore à Paris à cette époque-là. Et là, je me suis dit, tiens, c'est marrant, il se passe des trucs là-bas. Moi, j'étais souvent saisonnier dans le Briançonnais et je captais même pas ce qui se passait ici alors que je venais ici tous les ans pour faire une opération coup de poing au col de l'échelle pour rétablir la frontière et protéger la France et l'Europe des discours habituels. Ils sont venus, donc ils étaient tous avec des manteaux floqués, ils étaient avec un hélicoptère floqué, ils étaient avec des voitures floquées, ils sont venus, ils ont mis des rubalises, ils chantaient la Marseillaise, ils ont l'air d'oublier que c'est à la base, c'est censé être un chant révolutionnaire en tout cas, mais eux ils ont oublié. Donc ils sont restés 2 jours pour faire ça, pour se faire prendre en photo, pour faire se filmer en rando et pour faire leur grand événement. Il y a eu plusieurs choses. Il y a des militants qui, eux, n'étaient pas habillés en bleu, qui ont tenté de les empêcher. Et puis, il y a eu des gens qui étaient habillés en bleu, mais ceux qui ont des armures, qui ont empêché les militants pas habillés en bleu d'embêter ceux qui étaient habillés en bleu. Et par exemple, le maire actuel de Briançon, il est interrogé. À l'époque, il parle de Génération Identitaire. Il n'est pas encore maire, mais c'est les conseillers départementaux à l'époque. Et il dit c'est quand même bien que des jeunes patriotes viennent exprimer leur avis. Il n'y a pas de honte à être un jeune patriote. Enfin bref, il les défend pas mal et il aime bien Génération Identitaire. Quoi. Donc grosse ambiance. Ça, c'est l'opération qui va marquer beaucoup de monde. C'est ce qui va faire couler beaucoup d'encre, etc. Le problème, c'est qu'il y en a un certain nombre qui vont rester plus longtemps. Qui vont commencer à faire des actes violents sur les militants, se mettre devant le refuge, prendre en photo, se déguiser en maraudeurs pour faire des contre-maraudes, pour aller choper les exilés la nuit, les amener à la PAF. Ils vont commencer à faire des contrôles d'identité dans la rue, je te résume, vraiment. Et ils vont finir par faire une opération distribution de tracts à l'entrée de Briançon, mais en fait, qui est une espèce de barrage routier où ils regardent qui sont dans les voitures. Et en fait, il va y avoir une course-poursuite entre un solidaire et des membres de Génération Solidaire, ce qui a monétisé les bains. Ce qui finira globalement un peu en bagarre générale à Monnetier. Et à partir de là, quand même, il y a des gens, les forces de l'ordre, etc., qui vont dire « Oui, ça serait quand même bien que vous y alliez, mais ça va durer quand même plusieurs jours et semaines. » Étonnamment, ça faisait des années que je venais là comme saisonnier. Je n'avais jamais entendu parler de ce qui se passait avant.
«
D'accord, alors pour être à Briançon, j'y suis depuis la retraite. Pour
m'occuper. Marie-Danielle, de la CIMADE.
La frontière, ça fait 7 ans, je crois, à peu près. J'appartiens à une association qui s'appelle la CIMADE, qui s'occupe de la défense du droit des étrangers. Donc, d'essayer de faire avancer les choses, qui est bien difficile dans le contexte. Voilà, et donc je viens ici pour informer les personnes qui arrivent par la frontière. On fait des permanences collectives avec 3 types d'informations selon la nationalité des gens et selon leur âge, puisqu'on a une information asile pour les gens qui ont plutôt des chances d'avoir l'asile, par exemple les Soudanais qui sont actuellement au refuge. On a, je fais une information pour les mineurs et je fais une information aussi pour les gens qui ne vont pas demander l'asile parce qu'ils n'ont pas beaucoup de chances de l'avoir, mais qui veulent savoir comment on vit sans papier et aussi les possibilités éventuelles de régularisation. Les spécificités de Briançon, ben, c'est à la fois l'incroyable le nombre d'associations et de militants très très divers qui arrivent avec quelques tensions à travailler ensemble, mais qui y arrivent. Et c'est aussi, on a la chance d'avoir d'excellents rapports avec l'hôpital, ce qui nous facilite beaucoup les choses. Par contre, on a des ennemis jurés, et en particulier le maire de Briançon qui est, on pourrait dire, sympathisant LR.
Refuge, nous, on s'occupe que de l'accueil d'urgence. Nous, notre rôle, c'est surtout de, pendant 3 jours, 3 nuits, les accueillir, les loger, les nourrir, les aider le plus possible à avoir le plus d'infos possible, que ce soit nous ou d'autres associations qui interviennent au sein de Refuge, et qui puissent essayer de partir, si possible, le plus dignement et le mieux orienté possible pour la suite de leur parcours, quoi. En fait, faut bien comprendre que y a 2 réalités qui s'affrontent. C'est est-ce qu'on doit faire un accueil inconditionnel tout le temps, quitte à perdre le bâtiment, mais au moins on aura fait à ce moment-là, on aura fait l'accueil inconditionnel. Ou est-ce qu'on dit non, mais on peut pas faire un accueil inconditionnel parce qu'en fait on est limité par la loi. La loi, elle nous donne un agrément ERP qui nous permet d'accueillir du public. Elle nous met des limites à ça. Et si on les respecte pas, on pourrait fermer le bâtiment. Est-ce qu'on doit accueillir tout le monde et utiliser l'outil au maximum qu'on peut l'utiliser tant qu'on l'a, qui s'appelle le bâtiment des terrasses solidaires, ou est-ce qu'on doit protéger l'outil pour continuer, certes, à peut-être pas accueillir tout le monde, mais tous les gens qu'on accueille, on les accueille bien. Le jour où il y a une fermeture administrative, là, on devient dépendant des pouvoirs publics pour réouvrir la structure. Et là, ça peut durer longtemps, quoi. En fait, ça peut durer pour toujours ou ça peut ne pas durer longtemps, mais ça, il n'y a pas de statut. Donc, en fait, à chaque fois, Terrasse, avant que ça rompe, a fait le choix de fermer eux-mêmes. Quand nous, on a fermé ici, on n'a pas directement été au PADO. On a été gérer un camp. Le PADO a directement pris un peu des gens, pas mal de gens, un peu beaucoup de gens de son côté. Parce qu'en fait, c'est à cette époque-là qu'il faut imaginer qu'avec toute la crise qui se passait en Italie avec Madame Meloni et avec tout ce qui se passait en Tunisie, etc. En fait, des fois, on a eu deux fois dans notre camp 200 arrivés dans la même nuit. Un bâtiment qui est prévu pour 65 places, quand même, à la base couchée, quoi. Quand, en fait, c'est ça que tu dois gérer, et ça a duré des mois. Donc, il faut comprendre que quand Terrasse décide de fermer, depuis mai, juin, juillet, août, on a des milliers de personnes qui passent. On a 3200 personnes qui passent rien qu'au mois d'août. Donc, quand, en fait, ils décident de fermer, c'est parce qu'il faut imaginer qu'il y avait des tentes là, il y en avait pratiquement dehors, les gens, il y avait plus de couverture, plus de draps, les gens dormaient par terre, debout, ils mettaient juste une serviette sur la tête la nuit, debout, dans un coin, pour essayer de se reposer un peu, enfin, il y avait pratiquement plus de toilettes, plus de douches, enfin, c'était devenu très compliqué, etc. Enfin, voilà, faut imaginer que ça a été très loin. Donc, quand on ferme, en fait, il y a très peu de bénévoles, le bâtiment est fermé, les personnes sont évacuées, et du coup, la paroisse réouvre un camp et on atterrit refuge à gérer un camp là-bas. À chaque fois qu'on se fait virer, on est au terrain de la paroisse. Oui, c'est à chaque fois, on atterrit là-bas. Et donc, on va tenir à peu près, je crois, 17 jours là-bas. Et la paroisse, enfin une partie de la paroisse, va décider de nous demander de rendre le terrain. Donc, du coup, on va arrêter refuge. À partir de là, tout le monde va atterrir au PADO.
Alors, très concrètement, aujourd'hui dans la ville, alors vous avez plusieurs associations qui ont ouvert sur les hauteurs de la ville un bâtiment pour héberger des migrants. On sait que ces associations, elles aident matériellement les migrants à franchir la frontière. Elles leur prêtent du matériel pour passer la montagne, qu'elles récupèrent une fois en France, avant de ramener ce matériel en Italie pour d'autres migrants. Et puis, il y a ce squat qui a été ouvert en centre-ville. On en parlait dans le journal de 7h. Arnaud Murgia, squat ouvert par des militants d'extrême gauche, hostiles à toute idée de frontière. C'est à 2 pas d'une école et c'est un sujet de tension dans la ville aujourd'hui.
Bien entendu, c'est un sujet de tension parce que on a un mur mitoyen entre un squat qui, en l'occurrence, n'est pas l'œuvre de militants associatifs, hein, mais de personnes qui ont tout à voir avec le désordre et les ZAD.
Bah moi, je suis arrivée il y a un an en tant que bénévole et c'était au moment où le refuge
Anouk,
était fermé,
de Refuge Solidaire.
Le bâtiment des terrasses était fermé. Et donc, Refuge avait déplacé une grande partie de ses activités dans un squat qui s'appelait le Pado. Bah, le Pado, c'est un squat qui a été ouvert et qui, en fait, a notamment hébergé toutes les personnes qui arrivaient au moment où le bâtiment des terrasses s'était fermé. Et le bâtiment des terrasses a fermé parce que il y avait beaucoup trop de monde sur une période trop importante et que ça devenait impossible à gérer en termes de sécurité sanitaire et tout. Et on aidait sur des trucs matériels, de l'accueil, de la bouffe au Pado. Un grand bâtiment qui s'appelle Pado parce qu'il y avait Pado et Padelec qui a été coupé par la mairie. Ouais, c'était assez lourd, quoi, assez intense. Enfin, les bâtiments des terrasses avaient réouvert. Le Pado était toujours ouvert et en fait, il y avait certaines personnes qui voulaient rester un peu plus longtemps sur le Briançonnais qui allaient au Pado, des militants qui venaient ici et tout. Et puis après, ils ont été expulsés en décembre 2023, du coup.
Du coup, je prends la parole pour le milieu autonome. Ça veut plus rien dire, mais en gros, on ouvre des squats principalement ici.
Prise de parole lors de la manif Nos JO 2030.
Italien et français. Et du coup, je vous vois dans le squat, enfin le dernier gros squat qu'il y a eu, du coup, et qui a répondu à l'urgence, un peu la crise qu'il y avait ici. En fait, le nombre de passages pour les exilés à cette frontière a augmenté, c'était exponentiel. Bon, du coup, moins cette année, à cause de la géopolitique, notamment en Tunisie et en Libye. En gros, le refuge a fermé, parce que ils ont une capacité. Les terrasses ont fermé. Parce qu'il y a une capacité maximale de 80 places d'accueil. Elles étaient plus de 200. Et du coup, en fait, on a ouvert un squat pour pallier à ça. Alors, de base, ça se voulait plus pour les personnes qui voulaient rester plus longtemps sur Briançon et permettre de prendre le temps bien de savoir, enfin, se poser et savoir où aller et que faire de sa life en arrivant en France ou ailleurs. Parce que du coup, en fait, le refuge a fermé et du coup, il y a eu un camp pendant 10 jours. On a commencé à ouvrir le squat, tout ça pour les personnes exilées. Pour l'hébergement, parce qu'ils étaient en tente, du coup, bah, on a un bat, voilà. Et du coup, le camp a fermé ensuite, et du coup, on est devenu le seul lieu d'accueil sur Briançon. Et du coup, on a pris la charge avec les assos, quand même, qui venaient faire à manger, prendre des tickets de bus, ça, c'était le gros du truc. Du coup, on est monté à plus de 300 personnes dans ce bâtiment. On a eu masse de répression de la mairie, Arnaud Murgia, extrême droite, droite extrême, bon bref, c'était pareil. Du coup, en gros, il nous a coupé l'eau et les lecs. Et du coup, l'arrêté mis en péril est tombé en plein hiver, enfin le début de l'hiver à Briançon, où il y a genre un mètre de neige. Et du coup, on s'est fait jarter par les flics. Voilà. Ici, la lutte nos borders autonomes se veut complémentaire aussi de. Enfin, on fait pas les choses de notre côté. Genre, on essaie, enfin avant si. Et maintenant, on essaie plus de vraiment être ensemble parce qu'on lutte pour la même chose et contre la même chose.
Ça fait 3 ans que je viens souvent ici et que du coup j'observe un peu la composition du milieu militant. C'est ce que disait cette personne, que du coup il y a les personnes plutôt institutionnelles, associatives et les autonomes, enfin en tout cas les personnes qui se revendiquent autonomes, qui s'organisent en tant qu'autonomes ou qui viennent sans vouloir être affiliés à une orga, qui s'organisent et qui s'organisent en bonne entente. Et en fait toute la pression médiatique qu'on a connue pendant l'ouverture du lieu qui a été fermé récemment et pour lequel l'eau a été coupée, toute la pression médiatique portait sur l'ultra-gauche, les anards, pour essayer en fait de scinder le milieu militant briançonnais. Il y a eu des tensions, évidemment, il y a eu des conflits pendant ces moments, mais le fait est que ça tient encore, et ça, c'est quand même vachement chouette.
Ouais, en vrai, on a toujours besoin de monde. On a à peu près 500 bénévoles qui viennent par an. Et ouais, c'est assez marrant, parce que bon, tout le monde ressort quand même un peu bouleversé positivement, mais souvent positivement quand même, de cette expérience ici. Et c'est assez fou, le lien que tu gardes avec Refuge. Enfin, pas moi, il est particulier, mais j'ai d'autres potes que je m'étais fait bénévoles, même, tu vois, qui sont pas venus depuis un an, mais quand tu leur en reparles, ils sont trop contents, ils rêvent de revenir et tout. Et en vrai, il se passe vraiment un truc ici. En termes de rencontres avec les personnes accueillies, en termes d'activité, le lieu, il est quand même particulier. Enfin, la frontière, la montagne et tout, c'est quand même vraiment différent des autres spots. Et les liens que tu fais, ils sont vraiment forts. Donc, n'hésitez pas. Ouais, franchement, plus on a de bénévoles, mieux on se porte, nous. Et parce que vraiment, les bénévoles, c'est ceux qui permettent le fonctionnement du lieu, quoi. Celles et ceux qui permettent ce fonctionnement de la vie quotidienne, qui est absolument essentiel pour l'accueil digne qu'on veut offrir.
Ce que j'ai observé, c'est que dans les archives, etc., c'est qu'il y a toujours eu un contrôle différencié. Ça, c'est clair. Le contrôle, il n'a jamais concerné tout le monde. Les touristes, ils ont toujours pu aller et venir librement de part et d'autre de la frontière, sauf à des toutes petites périodes, pendant les périodes de guerre, non, mais voilà. Ce qui s'est passé, c'est que quand même, ça a créé des tensions, le fait qu'il y ait ce contrôle policier, notamment à plusieurs périodes, mais notamment quand il y a eu le tourisme de masse, le fait que donc il y avait les postes frontières à l'époque, voilà, qui étaient fixes, et donc un contrôle normalement de tous les véhicules. Donc ils ont demandé les papiers aux gens, etc. Sauf que en fait, ça c'était embêtant parce que ça créait des longues queues en fait, parce qu'en fait, au fur et à mesure, il y a eu le développement de la voiture individuelle. Le tourisme de masse, donc avec tous les congés payés, les Français partent en vacances dans leur voiture individuelle, dans les stations, etc. Et du coup, ça, en fait, c'est devenu progressivement incompatible avec le fait de contrôler les papiers de tout le monde à la frontière. Et en plus, pour l'agrément des stations locales, les gens, ils viennent profiter de la nature, ils viennent profiter de la montagne, ça, c'est le paradoxe du tourisme, mais ils viennent en voiture, et du coup, ben, quand il y a des longues queues qui se font au poste frontière de Montgenèvre, ça pollue, et du coup, ça casse complètement tout le décor touristique qu'on essaye de construire. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on se dit, bon, c'est plus tenable comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire évoluer les contrôles vers des contrôles mobiles et ciblés. Et cette solution, c'est la mise en place de l'espace Schengen. Donc, en 93, tous les médias de l'époque disaient « c'est la fin des frontières, c'est l'abolition des frontières, la frontière a disparu, etc. » Sauf qu'en fait, c'est pas vrai. En fait, il y a aussi... Enfin, les gouvernements ont essayé de rassurer la population, entre guillemets. « Vous inquiétez pas, vous êtes toujours bien protégés. » Par les policiers, juste on est passé à des contrôles mobiles. Donc à cette époque, on voit dans les archives de l'INA, il y a encore, donc ils sont, les policiers font des rondes dans leur petite voiture, ils sont aussi à ski, donc ils sont là avec leur ski, ils patrouillent sur les pistes, etc. Cette histoire des contrôles mobiles, alors ils disent mobiles et aléatoires, mais en fait ils ne sont pas du tout aléatoires, c'est des contrôles totalement ciblés et qui sont effectués avec un profilage en fait, des gens. Ces contrôles, ils sont devenus la norme, et en fait... ce qui est intéressant, c'est que 2015, on a rétabli les contrôles permanents à la frontière entre la France et l'Italie, sauf qu'on a gardé en fait ces contrôles mobiles et ciblés. Les techniques policières, elles se sont beaucoup sophistiquées. On réaffecte beaucoup de présence policière aux frontières, y compris aux frontières internes. Arrivée de plus de police et arrivée de matériel pour pouvoir patrouiller en montagne. Donc ça va être les motoneiges pour la police aux frontières. Des lunettes de vision nocturne pour les gendarmes mobiles, enfin voilà, des drones, du matériel de plus en plus sophistiqué pour pouvoir effectuer ce profilage et ce ciblage et ce contrôle vraiment mobile dans l'espace montagneux.
De base, Tous Migrants, c'est un mouvement citoyen, c'est pas une association tout de suite.
Léo, Brune et Laura de l'association Tous Migrants.
D'abord, en réaction à la crise de l'accueil en Europe, donc très largement, avant même que les personnes exilées arrivent ici sur le territoire. Donc c'était notamment en réaction à la photo de Alan Kurdi, le bébé qui était retrouvé mort sur les plages grecques, syriens. Donc ça, ça s'est articulé spontanément au début autour de ça. Et après, ça s'est constitué en association en 2017. Et après, l'association a plus donc pris part à quelque chose de plus local au moment où il y a eu l'arrivée des personnes exilées. Donc à partir de l'hiver 2016-2017, par l'école de montagne, d'abord par le col de l'Échelle, ensuite par le col du Mont-Genèvre. C'est une association qui, en gros, donc, a deux missions principales, à la fois mobiliser le territoire sur les questions relatives à l'accueil des personnes migrantes ici, et à la fois participer à un plaidoyer au niveau national et européen pour la défense des droits des personnes exilées. Mais donc plus concrètement, ici, c'est un peu Tous Migrants qui a pour rôle de visibiliser ce qui se passe à la frontière, visibiliser les atteintes aux droits, les dangers de la militarisation de la frontière, et aussi du coup porter le message politique global de dire un peu ce qui se passe. Voilà. Et donc il y a un peu une segmentation des rôles des associations à Briançon. Donc par exemple, le Refuge Solidaire prend en charge que l'accueil d'urgence et Tous Migrants est plutôt sur quelque chose de fond, de politique, on a voulu séquencer le rôle des assos.
Cette complémentarité-là, c'est un truc sur lequel Tous Migrants insiste pas mal parce que c'est fondamental et que c'est aussi à l'origine de la mobilisation du territoire plus globalement et que c'est ce qui permet de faire des ponts entre certaines thématiques qui, de l'extérieur, sont vues comme... comme indépendantes et qui ne le sont pas, et que la question, elle s'arrête pas à la simple frontière, et qu'en fait, après, c'est aussi un continuum de violence, un continuum de violation de droits sur le territoire français, européen, et que du coup, ça a tout son sens aussi de réunir les acteurs et actrices, de réunir les thématiques, que ce soit de l'accès au logement, que ce soit aussi par rapport aux questions de racisme sur le territoire français, enfin voilà.
Tous migrants depuis les premières arrivées par la montagne, donc au col de l'échelle, en 2016, c'est investi avec le collectif Maraude dans l'idée d'aller au-devant de personnes qui pourraient être en difficulté dans la montagne, qui était d'abord, cette action était portée par des personnes individuelles et Tous migrants tout de suite a apporté son soutien avant que soit formalisé de manière un peu plus claire le collectif Maraude dans lequel sont présentes beaucoup de personnes de manière à titre individuel, des militants et des militantes, et aussi des associations, notamment Tous migrants et Médecins du Monde. Au sein du collectif Maraude, il y a un partenariat de Médecins du Monde et Tous migrants sur l'UMA, qui est l'unité mobile de mise à l'abri avec un véhicule dédié, voilà, qui apporte aussi son soutien aux maraudes à pied dans la montagne. Les maraudes, elles ont plutôt lieu en hiver. Les conditions climatiques sont quand même, même si en été la traversée de la montagne reste tout aussi dangereuse, en hiver forcément la question des températures négatives accroît en fait la vulnérabilité des personnes, bien quand même qu'on insiste que la dangerosité de la frontière elle est pas liée à la montagne ni aux conditions climatiques, mais elle est bien liée à un dispositif policier présent en montagne qui du coup force les personnes à s'aventurer plus haut en montagne. Et du coup, tout l'hiver, on a des équipes de maraudeurs, maraudeuses qui sillonnent la montagne, bien sûr, côté français, dans cette activité d'assistance à des personnes qui pourraient être en difficulté, leur proposant voilà, une assistance matérielle dans un premier temps, des vêtements chauds, du thé, et s'il y a une situation, pour repérer aussi des situations d'urgence qui nécessiteraient des mises à l'abri, notamment en faisant appel au secours et notamment à l'hôpital.
L'association insiste sur le fait que les montagnes, elles ont été utilisées comme frontières par les autorités, mais qu'en fait, c'est quelque chose aussi qui est refusé par les solidaires du Briançonnais. C'est que ces montagnes-là, elles ne sont pas censées être utilisées au service de politiques migratoires mortifères. Et rendre ces montagnes à nouveau accueillantes, etc., c'est aussi un des objectifs. Mais ça demande un énorme effort de vigilance aussi en montagne. Effort de vigilance qui n'est pas fait d'ailleurs qu'à cette frontière-là. Il y a aussi tout un tas d'autres dynamiques à d'autres frontières françaises, la frontière italienne basse, la frontière espagnole, toute la plateforme aussi au niveau de Calais. Et les activités de maraude, en fait, c'est aussi une présence. Et c'est aussi rappeler à la police qu'elle est observée et qu'elle peut, du fait, pas faire ce qu'elle veut. En fait, c'est prêter assistance aux personnes, c'est évident, mais au-delà de ça, c'est aussi un enjeu d'observation. Enfin, comme tous les observatoires, en fait, c'est là aussi pour que ça ne devienne pas un système opaque où les autorités policières ont tous les droits. Et c'est rappeler la présence de Père Dieu attentif. Et après, nous, il y a aussi des activités plus de recueil de témoignages dans un second temps pour des personnes qui seront ensuite arrivées au refuge ou ailleurs. Et là, c'est pour encore une fois essayer de vraiment bien comprendre ce qui se passe. Et après, sur le terrain juridique, en fait, c'est indispensable. On peut pas arriver les mains dans les poches en disant « Ouais, mais on pense qu'en fait, non, on est sûr de ce qui se passe parce qu'on est sur place et on voit. »
Attends, parce qu'on va retourner là-bas. Là, il y a des gars qui sont tous en train de se faire serrer. C'est la chasse à courre.
Ceux qui veulent retourner au niveau de la PAF, il y a pas mal de migrants qui essayent de passer. Et comme il y a beaucoup de policiers, il y a une chasse, une traque à l'homme.
Tu peux m'attraper, c'est ça. Ouais, mais ouais. De toute façon, c'est mon travail, je vais essayer. Hein. C'est mon travail, je vais essayer. Non, mais aujourd'hui, c'est mon maman, là, ta France. Aujourd'hui, là, c'est pas tes mains. Nous, on est en France. Toi t'es français?
Non, je ne connaissais personne.
T'es pas le français?
Regarde, ouais, allez, laissez.
Vous laisser travailler. Mettez un peu plus bas.
Parce que ce que vous nous gênez, on a tout travaillé.
C'est juste pour qu'ils puissent travailler.
Moi, j'ai la sécurité.
La PAF, c'est là-bas, vous les vendez où? La PAF, c'est là-bas, vous les vendez où?
Vous n'avez pas le droit de les ramener directement, ils ont le droit de faire une demande d'asile. Ils ont le droit, c'est la loi.
Oui, on le sait, monsieur, c'est énervé.
Vous les emmenez où?
C'est bon.
C'est là-bas que ça se passe.
Isabelle, de Médecins du Monde.
L'image qu'on a de Briançon, c'est vraiment cette solidarité qui s'est mise en place dès le départ. Donc je pense vraiment dès 2015, dès 2016, il y a vraiment eu une volonté d'accueillir les personnes exilées, que ce soit des personnes qui venaient de Calais après le démantèlement de la jungle ou des personnes qui traversaient par le col de l'Échelle ou par Montgenèvre. Donc il y a vraiment eu cet élan, en tout cas citoyen au départ, vraiment ce mouvement citoyen qui a permis d'accueillir. Donc je crois que ça c'était avec ce mot d'ordre un peu qui était « on va pas mourir dans nos montagnes ». Voilà. Donc voilà, ça c'était je pense un peu une spécificité d'ici aussi, enfin la montagne, le fait qu'il y ait des guides de moyenne montagne et qu'il y ait cette culture de la montagne, qu'il y ait cette culture du refuge aussi. Enfin voilà, je pense que ça a permis aussi de créer toute cette énergie-là et cet accueil-là. Donc un lieu comme les terrasses solidaires, purement privé et géré par des associations, des collectifs et autres, je pense que c'est assez unique en France aussi, et puis qui essaie vraiment de travailler la complémentarité et différentes disciplines. Donc je trouve qu'on a un accompagnement qui peut être vraiment intéressant. En fait, on parle souvent de lieu de répit aux frontières. Enfin, nous, en tout cas, on aime bien employer ce mot, médecin du monde, de lieu de répit aux frontières, et à la fois, à tous les besoins essentiels qui sont présents, enfin, qui sont accessibles, en tout cas, par l'association Refuge Solidaire, enfin, l'hébergement, l'alimentation, encore plus aussi des activités. On a Médecins du Monde avec le soin. On a la CIMAD qui fait des informations juridiques. Donc je trouve qu'on a un panel, en tout cas, sur un lieu de 3 jours qui est vraiment intéressant pour outiller les personnes et puis voilà, de repos, hein, tout simplement, aussi, avant de continuer la route. Donc je trouve que c'est assez chouette à valoriser. C'est une belle spécificité d'ici. Et puis après, peut-être les actions aussi en montagne, quoi, les maraudes, comme ça se faisait depuis des années. Le fait d'avoir une énergie et une mobilisation militante, en tout cas à la frontière. Enfin, faut savoir quand même que les hivers précédents, c'était tous les soirs des maraudeurs bénévoles, solidaires, qui montaient en montagne tout l'hiver, de novembre à mai. Et dans des conditions quand même complexes, de nuit, il peut faire moins 20 degrés en ressenti, parfois l'hiver, donc des gens qui restent toute la nuit en montagne pour pouvoir voir si des personnes ont besoin d'appui ou pas. Voilà, c'était assez dingue quand même comme énergie, et dans un contexte de criminalisation de la solidarité qui était hyper fort. Et c'est vrai qu'il y a eu plein de phases différentes. Moi, je suis là depuis 3 ans, mais avant les 3 ans, il y a eu énormément de garde à vue et d'auditions libres de maraudeurs, maraudeuses qui étaient en montagne. Bon, il y a eu le fameux procès des 3 plus 4 de Briançon, voilà, qui était accusé d'aide au passage à la frontière, voilà, suite à des manifestations. Mais pour parler de l'unité mobile de mise à l'abri et de Médecins du Monde, par exemple, ce qu'on pouvait rencontrer en montagne, ça pouvait être donc soit des propos déplacés des forces de l'ordre envers nos équipes ou envers souvent les infirmières, qui étaient souvent jeunes, femmes. On a eu des amendes abusives, période Covid, et même après, voilà, des amendes abusives. On a eu 2 amendes mensongères, comme quoi on était passé sur des chemins forestiers alors qu'on n'y était jamais passé, comme quoi il n'y avait pas le port de la ceinture alors qu'il y avait le port de la ceinture. D'ailleurs, on a gagné au tribunal administratif ces 2 amendes mensongères, donc ce qui est quand même gravissime, avec des procès-verbaux qui étaient faux. On a pu avoir des situations de filature aussi. Médecins du Monde, par exemple, se faisait suivre la voiture de nuit. Donc, dans un contexte de répression et de refoulement systématique, c'était impossible d'exercer la mission plus de réduction des risques qu'on avait à ce moment-là en montagne. Ça, c'était complexe. Et on a eu quelques situations aussi de refus de soins, en tout cas, et d'entraves à notre action. On s'est fait arrêter, en fait, peut-être 3-4 fois, on s'est fait arrêter avec la voiture Médecins du Monde. Et il y a 2 fois, par exemple, on n'a pas réussi à mettre les gens à l'abri, alors qu'on estimait, selon les soignants, qu'il fallait mettre les personnes à l'abri ou les orienter à l'hôpital. Et 2 autres fois où on a réussi à négocier, mais après des heures et des heures, d'amener les gens à l'hôpital. Mais sur la plupart des situations, je parlerai... Alors, à la fois, il y avait les pathologies qui étaient liées à la frontière, à la traversée de la frontière. Donc il y avait toute la période hivernale, il y avait énormément de répression et de militarisation à la frontière, et les personnes étaient refoulées systématiquement. Donc les personnes passaient par des chemins très détournés, ou pouvaient rester très longtemps dans la montagne, donc notamment en hiver dans la neige, ou se cacher dans la neige parce qu'ils ne voulaient pas se faire prendre par les forces de l'ordre. Donc là, on avait beaucoup de situations, soit de risque d'hypothermie, soit de risque de gelure. Donc ça, c'était des grosses pathologies au niveau hivernal. Mais voilà, vigilance sur l'hiver et sur les autres pathologies. Donc on était beaucoup sur des douleurs ostéo-articulaires, donc ça va être tout ce qui est douleurs diffuses liées à la marche, des épuisements, voilà, et des douleurs musculaires. On va voir de la traumatologie, donc des gens aussi qui ont pu donc chuter en montagne, donc avec des entorses et des fractures, en lien ou pas avec les forces de l'ordre, parce que du coup il y a un an et demi, il y avait quand même aussi des pratiques de course-poursuite dans la montagne, donc des chutes et des fractures liées aux agissements directs des forces de l'ordre, mais des gens bref peuvent chuter parce que c'est le milieu montagnard. En été, beaucoup de plaies surinfectées. Donc soit des plaies liées à la marche, soit des plaies surinfectées. Pas mal de plaies par des passages de la route de Balkan aussi, dans des forêts avec des plaies qui se surinfectent, des plaies de moustiques et tout ça.
La particularité du Briançonnais, c'est qu'ici, la montagne, elle devient vraiment un instrument de contrôle et de violence. Et ça, c'est vraiment la particularité du Briançonnais. C'est-à-dire que c'est pas la montagne en soi. Hein. La montagne en soi, en fait, c'est, on marche sur les chemins de randonnée. Il y a rien de dangereux. Voilà, quand on est bien équipé et qu'on n'est pas, on n'a pas à craindre la police. C'est une montagne tout à fait riante et habitable et habitée, etc. Mais pour les personnes en migration, elle devient dangereuse parce que déjà une partie d'entre elles n'ont pas forcément d'expérience de marche en montagne, ne sont pas équipées à l'avance, sauf s'ils ont eu la chance de croiser des solidaires, parce qu'heureusement, il y a quand même beaucoup de personnes solidaires qui, justement, essayent de leur fournir des conseils et des équipements. Mais s'ils n'ont pas croisé de personnes solidaires, souvent, ils ne sont pas du tout équipés pour la marche en montagne, été comme hiver, c'est-à-dire été, ils n'ont pas de chaussures de marche, pas d'eau, pas à manger, et l'hiver, pas de chaussures de neige, pas d'habits chauds, La police, elle patrouille avant tout sur les routes et sur les chemins de randonnée et sur les pistes de ski, donc tous les espaces qui sont sécurisés, en fait, et éclairés. Donc pour les éviter, les personnes en migration, elles montent de plus en plus haut dans la montagne, elles s'éloignent des chemins éclairés et elles se perdent. Donc ça fait beaucoup de gens qui se blessent et qui sont en hypothermie, etc. C'est des gens à qui il est arrivé ça, en fait. Ils sont perdus dans la montagne. Il y en a, ils marchent pendant des jours, alors que si on marchait sur le GR, ça mettrait 4 heures pour aller de la frontière à Briançon. Et après, il y a des pratiques policières proactives d'arrestation qui sont incitées par tout un système, en fait, qui pousse les forces de l'ordre à augmenter leurs chiffres en termes de nombre d'arrestations. Et donc, on documente des pratiques de mise en danger active avec des courses-poursuites. Parfois des courses-poursuites où la police est en motoneige ou en véhicule et la personne, elle court, ou bien des courses-poursuites à pied. Et des pratiques de piège aussi, où la police, ils savent parce qu'ils ont des drones, ils ont des informations du côté italien ou de la population locale. Donc, ils savent par où arrivent les gens. Et du coup, ils se mettent en contrebas, par exemple, et ils les prennent par surprise. Ça crée de la panique. Les gens, ils se mettent à courir et c'est là qu'on a des chutes, etc. Il y a eu, je crois, 12 décès à cette frontière haute-alpine. On est sur 60 décès à la frontière franco-italienne totale depuis les années 90, dont la très, très, très grande majorité sont après 2015. Évidemment, 12 personnes, c'est déjà beaucoup, c'est beaucoup trop, mais c'est juste une toute petite partie de l'iceberg, en fait. Derrière, il y a toutes les personnes qui sont blessées et ensuite, il y a toutes les personnes qui sont traumatisées, en fait, tout simplement, qui n'ont pas de séquelles physiques, mais en fait, qui ont des séquelles psychologiques vraiment lourdes. Et pour beaucoup de gens que moi j'ai croisés à cette frontière, ils font le parallèle avec la Méditerranée. Ils disent « passer les Alpes, c'est comme si j'ai passé la Méditerranée une deuxième fois ».
Peut-être qu'il me rêve, ou bien suis-je oublié, ma jungle est un désert, mes amis sont usés. Peut-être qu'il me rêve,
ce point de les associations se substituent au rôle de l'État, je trouve qu'il est particulièrement probant dans le Briançonnais, notamment le rôle du refuge, qui en fait est un dispositif qui devrait être mis en place par l'État. Et en fait, c'est des associations et c'est des solidaires et c'est des habitants de Briançon qui se sont mobilisés depuis 2017 pour mettre à l'abri des personnes et pour leur permettre de dormir convenablement et d'être accueillis convenablement. Ce qui est compliqué, c'est de toujours, de réussir à dire non un petit peu et de pas toujours s'investir. Par exemple, en fait, le rôle des maraudes aussi, il est s'il est particulièrement exemplaire, en fait, bah, à quel moment on se dit je vais pas aller en maraude alors qu'on sait que tous les soirs en hiver, il y a des personnes qui traversent la montagne. À chaque nouvelle chute de neige, ça veut dire il y a des nouveaux risques. Enfin, il y a vraiment quelque chose, bah, là, du ressort de l'intime, du ressort. En plus, pour les Briançonnais, un rapport à la montagne qui peut être complètement changé et qui est hyper violent. L'État impose nos actions. En fait, on n'a pas, enfin, dans un monde idéal, on devrait même pas faire ce qu'on fait. Et en plus, l'État et toutes les politiques migratoires actuelles, c'est en fait que des bâtons dans les roues pour rendre plus difficile l'engagement de personnes, plus difficile notre travail, etc. Enfin, ce que disait Brune tout à l'heure, c'est particulièrement intéressant. En fait, en maraude, il n'y a pas seulement venir en aide aux personnes, c'est aussi ben, s'assurer que, ben, voilà, qu'on documente ce que fait la police, etc. Et en fait, tout ça, c'est que des actions qui sont accumulées, qui sont accumulées, qui sont accumulées et qui reposent sur... assez peu de personnes, même si on a la chance dans le Briançonnais d'avoir énormément de militants qui viennent d'ailleurs, notamment au refuge, et qui du coup participent à, et au niveau des maraudes aussi, qui du coup participent à ce que l'épuisement soit moindre, mais il y a aussi un peu quelque chose de stratégique, je pense, de, en fait, enfin, pour l'État, de continuer à épuiser ses militants, parce qu'en fait, ça limite nos actions, ça limite le fait qu'on documente les violations de droits, que l'accueil est moins bien fait, etc. Même si à la fois, ils sont extrêmement contents que personne dorme dans la rue à Briançon grâce au travail des associations. Donc c'est assez paradoxal, mais c'est vraiment un harcèlement institutionnel qui est très violent et qui, je pense, à Briançon est clair, quoi. Il y a un cairn qui a été érigé par des personnes solidaires du Briançonnais, qui sont pas forcément rattachées à une association, qui agissent en leur propre nom. Et donc c'est un cairn qui a été érigé pour signifier les morts qu'il y a eu ces dernières années et les personnes qui ont été portées disparues. Donc à savoir, il y a depuis entre 2018 et 2023, il y a eu 12 personnes qui sont mortes ou portées disparues à la frontière franco-italienne haute, donc dans le Briançonnais et aux alentours. Et donc ce cairn, c'était vraiment une manière de rendre visible toutes ces personnes qui sont décédées et de rendre visible les conséquences de la militarisation de la frontière, très concrètement, aux yeux du grand public et des autorités. Donc à la fois aux yeux de la population ici des Hautes-Alpes, qui en fait très souvent... ignore un peu la gravité de la situation, à la fois des personnes qui sont pas forcément dans le Briançonnais et à la fois des élus locaux. Par exemple, du maire de Briançon, enfin, parce qu'en fait, c'était sur sa commune et, enfin, du coup, il a complètement été au courant de l'initiative et donc ça a été une manière de signifier ça et donc de dénoncer les conséquences de la militarisation de la frontière. Là, en fait, on peut tracer aussi des liens directs entre la militarisation de la frontière et les conséquences directes que ça a sur les personnes exilées. Toutes les personnes qui sont mortes ou portées disparues, c'était entre 2018 et 2023. Donc dans une période où la militarisation de la frontière était très importante, presque croissante. Et notamment en 2023, il y a eu particulièrement de morts, notamment entre le mois de mai et le mois d'octobre, je crois. Il y a 3 personnes qui sont décédées. Donc en un temps très court. Et en fait, ça, c'est directement en lien avec un renforcement des effectifs à la frontière, notamment l'arrivée de la Border Force, donc vraiment très rapprochée. Donc en très peu de mois, il y a eu vraiment plusieurs drames aux alentours de Briançon, dont une est d'ailleurs décédée vraiment aux portes de la ville, enfin vraiment juste en face de là où était érigé le cairn, enfin vraiment à côté des premières maisons, quoi. Enfin, même pas en pleine montagne, quoi. C'est deux personnes qui se sont retrouvées sur une falaise, dont une qui a chuté et l'autre qui a alerté les secours toute la nuit, qui a été récupéré, je pense, au petit matin. Mais donc voilà, pour dire aussi la gravité de la chose, en fait. C'est pas que des personnes qui meurent loin, en montagne, dans des cols complètement éloignés, c'est aussi aux portes de Briançon. Le cairn, il a fini par... il est resté en place pendant un petit moment. Dans un premier temps, il est resté et il a pu être conservé. Il y a eu une vraie dynamique citoyenne autour du cairn et de sa protection. Il y a eu des relais qui ont été faits de la population pour le protéger jour et nuit pendant les premiers jours. Il y a vraiment eu un engouement, en fait, parce que les personnes ont réalisé la gravité des choses. Et en fait, la lourdeur du symbole de... Ben, il y a un élu local qui décide de potentiellement de détruire un monument qui est un hommage à des personnes qui sont décédées sur son territoire, qui sont en fait des morts en montagne. Nous, on a un peu essayé de dresser cette conclusion, mais en fait, quelle est la différence entre un mort en montagne qui meurt parce qu'il est guide et un mort en montagne qui meurt parce que c'est une personne exilée, bah, qui d'autant plus là meurt pas pour, parce qu'elle a fait une course en montagne pour son plaisir, en fait. Voilà. Mais donc, c'est un peu tout le parallèle qu'on a essayé de dresser. Et après, il a fini par être détruit par la mairie. Mais il a fini par être détruit et depuis, la dynamique citoyenne un peu qu'il y a autour de ça. En tout cas, les personnes essaient de continuer à faire vivre le cairn, parce que là, le cairn, il est toujours en place, plus exactement comme avant, parce qu'avant, c'était un joli cairn avec des fleurs, il y avait une volonté aussi de pas invisibiliser les personnes et de justement, enfin, signifier qu'en fait, chacune de ces personnes qui est morte, c'est une personne qui a une histoire, qui a une vie, etc. Donc ça a été important pour nous de mettre des plaques commémoratives qu'on a fait faire avec les noms, les prénoms des personnes et, je crois, la date de leur décès. Mais justement pour signifier qu'en fait, c'est pas juste un migrant qui est mort. Enfin, c'est un nom, un prénom, une histoire. En gros, un cairn, c'est juste un amas de cailloux qui, en montagne, signifie... c'est un balisage, en fait. C'est fait pour retrouver son chemin. Et donc, du coup, c'est à la fois un symbole qui parle beaucoup aux personnes qui pratiquent la montagne ici, et à la fois, c'est quelque chose dont se servent activement les personnes exilées en montagne pour se repérer. Et donc, ça faisait sens pour nous de rendre hommage. Et puis, c'est comme ça aussi que ici, les personnes rendent hommage aux personnes qui sont décédées en montagne. Voilà. Et oui, donc, il y a un nouveau cairn maintenant qui est à la place de l'ancien cairn. Et il y a aussi plein de gens qui ont décidé de faire plein de petits cairns autour de cet ancien cairn. Donc, en vrai, c'est assez significatif et assez beau comme action, je trouve.
Avant et après 2015, quelle est la vraie différence? Elle se situe pas effectivement dans le fait de s'il y avait des passages ou non et s'il y avait des contrôles policiers ou non, mais elle se situe dans la solidarité. C'est-à-dire qu'avant 2015, il y a eu des initiatives de solidarité qui ont été faites, des gens qui ont ouvert leurs portes, qui ont donné à boire, qui ont pris des gens en stop, mais c'était des initiatives individuelles. Et du coup, la solidarité, elle n'était pas du tout politisée à l'époque. Et donc après 2015, il y a eu quand même une visibilité du contrôle policier qui a marqué les gens dans le territoire. Il y a eu, globalement, à l'échelle, je pense, nationale, internationale, on s'est mis à parler plus de cette question des migrations. Et donc, du coup, il y a eu des initiatives de solidarité organisées. Et je pense que ça, c'est toute la différence, en fait. Organisées et politisées, en fait. Et ça, c'est une vraie différence. Et c'est ça qui fait la force du territoire briançonnais, quoi. C'est que cette solidarité, elle s'est très vite organisée collectivement. Ce truc de la formalisation, de la multiplication des lieux d'accueil, des collectifs, du côté français, du côté italien, le fait de créer des réseaux en fait entre les différentes régions frontalières, ça c'est très impressionnant et ça fait qu'aujourd'hui quand même, à la fois la police joue un rôle actif de mise en danger et à la fois les personnes solidaires jouent un rôle actif dans la sécurité en fait des personnes en migration. Enfin, s'il y a eu, entre guillemets, que 12 morts, c'est grâce vraiment à l'action des solidaires et des habitants, qu'ils soient organisés ou pas, parce qu'en fait, il y a aussi plein de gens qui ne sont pas organisés dans les associations, mais qui vont faire plein de petits gestes. Ce qui est très violent aujourd'hui, je trouve, c'est que tu as tout ce microcosme qui se met en place pour qu'on ne parle pas de la question des migrations dans la station. Et en fait... les pratiques policières, elles convergent avec les intérêts touristiques. En fait, les JO, c'est vraiment l'incarnation c'est l'incarnation de tous les paradoxes qu'on trouve ici. Il y a quand même l'idée que du coup, on va continuer des aménagements d'infrastructures massifs pour accueillir un événement sportif pour lequel on va faire venir des gens en avion de partout de la planète, etc. C'est encore tout ce côté absurde où en fait, on veut profiter des montagnes. Donc on valorise l'environnement, mais en le détruisant, quoi. Donc c'est vraiment le paradoxe du tourisme des montagnes. Poussé à son paroxysme, parce que les JO, c'est un événement mondial avec des investissements colossaux, donc une pollution aussi colossale, etc. Et en général, bon, on ne sait pas ce qui va se passer ici, mais ce qui s'est passé à Paris, c'est renforcement du dispositif policier, expulsion des locataires, etc. Donc ce qui risque de se passer ici, c'est un renforcement du dispositif policier à fond. Et y compris aux frontières, mais en fait sur tout le territoire des montagnes. Et voilà, et donc du coup, c'est toujours la poursuite en fait de ce modèle-là qui à la fois détruit l'environnement, provoque des violences à l'égard d'une partie de la population, qui n'est pas n'importe quelle partie de la population, qui est aussi les personnes racisées, les personnes qui voyagent avec le moins de ressources, les personnes qui voyagent de la manière la moins polluante aussi. Enfin voilà, vraiment des personnes dont les modes de vie en fait sont aussi les moins polluants, parce que c'est souvent les personnes les plus riches qui polluent le plus, quoi, y compris dans leur mode d'habitation, dans leurs pratiques touristiques, etc. Donc c'est la poursuite d'un système extrêmement violent, en fait, et d'un mode d'habiter les montagnes qui est extrêmement violent. Heureusement, les luttes écologistes, elles nous offrent des pistes pour dépasser ce modèle. Beaucoup de personnes solidaires qui sont impliquées dans les différentes associations de solidarité avec les personnes en migration. C'est aussi des gens qui étaient impliqués dans la lutte contre la ligne à haute tension il y a quelques années dans le territoire. Du côté italien, c'est tous les gens qui sont aussi impliqués dans la lutte contre le TAV. Donc il y a vraiment une convergence en fait, du point de vue de l'engagement. sur les questions écologistes et sur les questions de solidarité. Donc je pense que dans les JO, ça va se voir, quoi, qu'il y aura une unité, en tout cas, dans tout le tissu à la fois écologiste et d'accueil du Briançonnais. Mais quand même, c'est un territoire qui vit du tourisme. Et du coup, c'est une question qui reste encore en suspens, en fait, ici. Il y a pas mal de personnes du Briançonnais qui, du coup... espèrent développer des initiatives d'un tourisme plus durable, y compris d'un tourisme qui chercherait à inclure la question de l'accueil. Mais ça, c'est pas sans soulever beaucoup de paradoxes, parce que comment est-ce qu'on fait pas un tourisme un peu voyeuriste aussi, voilà. Enfin, en même temps, je comprends la réflexion qu'ils essayent d'imaginer quel sera l'avenir de leur territoire, comme ça fait des années, ça fait depuis le 1906 que ce territoire vit principalement du tourisme. Donc c'est dur d'imaginer en fait d'autres perspectives pour le territoire. C'est encore une question d'avenir qu'il faut se poser, quoi. C'est est-ce que on fait juste un tourisme plus durable pour le Briançonnais, ou est-ce qu'on se dit qu'en fait le tourisme c'est une impasse en soi et qu'il faut vraiment s'orienter vers d'autres manières d'habiter le territoire. Ça, je vais pas répondre à la place des Briançonnais, mais en tout cas c'est une question qui reste encore un peu en tension ici et qui est intéressante, quoi.
Le rapport à la montagne, je crois qu'il est assez central dans l'engagement de pas mal de personnes solidaires à Briançon. Cet enjeu de faire en sorte que ces montagnes-là soient pas un cimetière, et en fait que redonner aussi la beauté et la grandeur de cette nature qui nous entoure, mais au même titre que ça doit être un rapport qui est peut-être partagé, je sais pas moi, avec la mer, comment faire en sorte que la Méditerranée devienne pas ce cimetière-là qu'on connaît. Donc il y a ça d'une part, et aussi là, peut-être que dans les périodes où il y a eu beaucoup de luttes simultanées, voilà, il y a eu les élections en France, il y a eu beaucoup de fronts en fait sur lesquels s'engager, quelque chose de fatigant. Et je pense que l'objectif, ça va être aussi de pouvoir se ramener un peu de ce qu'on appelle la joie militante. Donc des moments de partage, des moments, je sais pas si ce concept-là, il parle à beaucoup de personnes, mais en tout cas, ouais, des moments de rire et des moments de faire ensemble, de moments, bref, de la convivialité. Mais pour faire en sorte qu'au moins cette lutte-là, les autorités la gagnent pas, quoi. Pas nous voler ça.
Ah, les voilà, ils arrivent. Au loin, là-bas, les avez-vous croisés le long des routes? J'ai perdu ma boussole, mes poches sont trouées. Je dors à même le sol, dans le froid de Calais. Les miens sont tous ailleurs, tous de l'autre côté. De la terre où tes yeux sans eux, il ne bat plus mon cœur. Peut-être qu'il me rêve, ou bien suis-je oublié? Ma jungle est un désert, mes amis sont usés. Ah, les voilà, ils arrivent. Au loin, du tombeau des vivants.
tracés le long des routes. La mort m'a poursuivi de la mer au rivage. Mes enfants ont blotti contre moi leur visage, et j'en entends qui râlent derrière leur écran. L'envahissement total ici et maintenant. Croisez le long.